Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, en Alberta, la communauté libanaise craint que le conflit israélo-palestinien embrase tout le Proche-Orient.
Il y a toujours des familles qui te contactent, je vous en prie, il faut nous sauver. On ne peut pas vivre dans cette place qu'il y a de la guerre, on a des enfants, on a la future, le meilleur futur pour nos enfants, on ne voit pas aucun. Et tout ce qui est mission, c'est vraiment de les aider pour qu'ils puissent sortir de ce milieu, vraiment.
Les immigrants francophones au Manitoba doivent composer avec le handicap de la langue. Le réseau Immigration francophone les attend aux arrivées.
On veut avoir un environnement qui soit favorable à la diversité et qui soit enclin à l'inclusion de ces personnes qui sont issues de l'immigration francophone ici au Manitoba.
Et on prend la mer à bord du Bella des Gagnés pour traverser le fleuve, s'arrêter en Côte-Nord et rejoindre le golfe du Saint-Laurent.
Je viens de la Nouvelle-Écosse, d'un petit village appelé Mavillette. À la baie Sainte-Marie. C'est un petit village de pêcheurs. J'ai grandi sur l'eau. Mon père a deux bateaux à pêche. Il faisait de la pêche au homard en hiver. Donc de novembre jusqu'à juin, tout l'hiver dans l'Atlantique, je faisais de la pêche au homard. Donc j'ai grandi avec ça. Mon frère est capitaine de bateau à pêche aussi.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, merci d'être là. Oui, on va prendre la mer, mais notre premier arrêt, on le fait sur la terre ferme, alors que nous prenons la direction de la ville d'Edmonton, où Ahmed Daoud, un ancien chef pâtissier d'origine libanaise, craint, comme beaucoup d'autres, que le conflit israélo-palestinien embrase tout le Proche-Orient. Le ministre israélien de la Défense n'a rien fait pour rassurer qui que ce soit. Lui qui a déclaré le 12 novembre dernier, cité dans les médias français, dont le journal Les Échos, et je cite, que ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth si le Hezbollah franchit une ligne rouge. Ahmed Daoud dit craindre le pire pour sa famille, ses amis et pour le Liban. Les Canado-Libanais ayant de la famille au Liban s'inquiètent face à l'escalade de la violence, ceci alors que le gouvernement fédéral a d'ailleurs demandé aux Canadiens sur place de quitter le Liban dans les plus brefs délais. Le Liban, il faut le souligner, qui depuis bien des années et avant toute cette affaire, est plongé au cœur d'une grave crise économique, politique et sociale. Voici Ahmed Daoud au micro d'Eline Koulou à Edmonton.
Vraiment, on vit avec des soucis tout le temps. On dort et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. C'est un cauchemar le lendemain. Qu'est-ce que ça va arriver le lendemain? C'est malheureux que ça se passe. Vraiment, c'est malheureux, très malheureux. Il y a trop des innocents vraiment qui sont en train de mourir pour rien. Ils n'ont rien à faire dans cette guerre, vraiment. La seule faute qu'ils ont, c'est parce qu'ils vivent vraiment dans cette région du monde. Je vous dis la réalité, depuis que je suis né, je vis dans cette, si vous voulez, un espace de guerre et puis de conflit. Et puis aujourd'hui, je suis à l'automne de ma vie, c'est toujours le même problème. Il faut trouver une solution comme la solution, on ne sait pas. Ça va, il faut que ça arrive de quelque part. Depuis que je suis venu dans ce pays jusqu'à maintenant, je me rappelle, le Canada était toujours, c'est une mission de paix dans le monde entier. Je me rappelle très bien quand je suis venu ici dans ce pays où il y a des guerres, c'était dans le monde, pour que le monde puisse être protégé des autres nations en tant que touriste et même le drapeau canadien. Parce qu'ils savent qu'ils sont les gens de paix, les gens toujours qui cherchent vraiment une solution pour la paix. Et puis, ils sont dans le milieu, ils ne prennent pas ni à gauche ni à droite, seulement ils invitent tout le monde de faire une solution de paix. Et puis, ça a toujours été le Canada comme ça. J'espère que vraiment le Canada qui continue à cette façon.
Ahmed Daoud partage des expériences de ses proches qui se trouvent au Liban en ces moments et des situations pénibles qu'ils sont en train de vivre.
Hier, il y avait un ami à moi. Sa famille, il traverse d'un village à l'autre village qui était frappé par un missile de l'autre côté, c'est de la frontière libanaise. Oui. Et puis, la grand-mère, la mère et les 7 enfants qui sont morts. Quelle faute que l'on a ces enfants pour qu'ils payent vraiment cette coûte de vie. Malheureux. Il y a toujours des familles qui te contactent. Je vous en prie, il faut nous sauver. On ne peut pas vivre dans cette place qu'il y a de la guerre. On a des enfants, on a la future, le meilleur futur pour nos enfants. On ne voit pas aucun. Et tout ce qui est mission, c'est vraiment de les aider pour qu'ils puissent sortir de ce milieu, vraiment.
Ahmed Daoud adresse un message de paix pour les deux nations et souhaite surtout voir ces conflits terminer un jour pour l'épanouissement des deux nations.
La majorité du monde, toujours, c'est qu'il invite vraiment tous les côtés pour une solution de paix. C'est entre les deux. C'est une solution de deux pays qui peut vivre tout le monde. C'est en paix ensemble. Si moi, tu es mon voisin, si je vais vivre un accord avec toi, il faut que je te parle à toi avant que je parle à ton voisin. Et c'est ça que ça va. Il faut que ça arrive vraiment. Un paix pour le monde entier.
Eline Koulou, journaliste pour IGL.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Parenthèse maintenant, juste le temps d'un erratum bien senti. Je vous ai dit la semaine dernière que Marine Otogali s'était intéressée à l'organisme Ubuntu, une association qui s'est donnée pour mission d'accompagner les nouveaux arrivants d'Afrique subsaharienne au pays. Eh bien, erreur totale sur la personne et la région, car il s'agissait bien de Sébastien Caron à Fredericton au Nouveau-Brunswick et pas du tout de Marine Otogali à Toronto en Ontario. Mille excuses à tout le monde, même si Ubuntu a des antennes dans plusieurs villes canadiennes, dont à Toronto. Ubuntu qui a d'ailleurs présenté son plus récent gala à Toronto avec des personnalités issues de toutes les communautés, d'où ma confusion. D'autant que Marine allait notamment couvrir le dit gala, mais c'est ravisé.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Amende honorable faite, prenons maintenant la direction de Winnipeg où s'est conclue il y a quelques jours, comme ailleurs au pays, la Semaine nationale de l'immigration francophone. On vous en parlait d'ailleurs la semaine dernière. On sait bien qu'être un immigrant francophone en situation minoritaire au Canada comporte son lot de défis. Les nouveaux Canadiens et résidents permanents qui se posent au Manitoba s'y façonnent pas à pas un nouvel avenir, mais ils savent, à l'inverse de ceux qui émigrent au Québec, qu'ils vont devoir se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Et au réseau de l'immigration francophone du Manitoba, on en est bien conscient. Saloua Medri, gestionnaire au réseau de l'immigration francophone, travaille avec son équipe et les organismes qui en font partie à faciliter l'intégration des francophones venus du monde entier pour s'installer au Manitoba. Madame Medri est ici au micro d'Iman El Hadji.
Je dirais que l'essence du travail du réseau d'immigration francophone, de par l'ensemble des membres et des organismes qui en font partie, c'est de travailler pour créer un environnement accueillant. Qui dit environnement accueillant dit aussi une communauté accueillante. Parce que les personnes, quand elles viennent s'établir au Manitoba, c'est dans des collectivités là qu'elles le font. Et donc, de ce fait, on veut avoir un environnement qui soit favorable à la diversité et qui soit enclin à l'inclusion de ces personnes qui sont issues de l'immigration francophone ici au Manitoba. Donc nous, concrètement, comment on le fait, c'est en travaillant avec les communautés d'accueil, avec les organismes et institutions pour les sensibiliser à la diversité, pour les sensibiliser aux divers besoins des immigrants d'expression française et aussi avec les communautés d'accueil sur la diversité, puis l'importance et la richesse, bien, la contribution de ces personnes qui sont issues de l'immigration au Manitoba. Et en créant aussi des occasions de rapprochement entre les communautés d'accueil, les organismes et les nouveaux arrivants pour favoriser justement cet échange, ce dialogue et cette cohabitation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles et éviter un peu les frictions et les malentendus qu'il peut y avoir.
Comment le RIF aborde-t-il les défis liés aux compétences en anglais et à la reconnaissance des qualifications?
Alors, la raison d'être essentiellement de la Semaine nationale de l'immigration francophone, c'est essentiellement de parler, de mettre en exergue, je dirais, la valeur ajoutée des immigrants francophones et les contributions diverses qu'ils apportent aux communautés dans lesquelles ces derniers et ces dernières s'établissent. En d'autres termes, mettre en avant vraiment les personnes qui sont issues de l'immigration et montrer un peu de quelle façon est-ce qu'elles contribuent, donner des exemples et aussi apporter des témoignages justement en allant dans le sens de la thématique de cette année pour justement leur donner la possibilité d'exprimer le pourquoi le Manitoba a été pour elles et eux une terre d'accueil. Donc ça, c'est vraiment l'essence puis la raison d'être là de la semaine. Concernant les enjeux, c'est un élément qui est par rapport aux compétences linguistiques. et notamment la maîtrise de l'anglais de ces personnes-là. Il y a vraiment différentes façons dont on s'y prend, à savoir lors des événements-là de promotion à l'international, on met de l'avant vraiment l'importance de l'anglais, c'est-à-dire on met le en avant et on informe de manière claire les candidats même à l'immigration. Ça veut dire toutes les personnes qui ne sont même pas encore ici, qui sont encore dans les réflexions et au début du processus éventuellement d'immigration, on leur dit que c'est vrai que le Manitoba, eh bien le Canada est un pays qui a le français et l'anglais comme langue officielle, mais le Manitoba est majoritairement anglophone. Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'anglais au moins avoir un niveau intermédiaire d'anglais pour pouvoir être fonctionnel et pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir intégrer le marché du travail. Cela étant dit, comme réseau en immigration francophone et comme organisme et institution francophone ici au Manitoba, il y a cette possibilité de vivre en français. Donc là, ce sont les éléments que nous essayons d'apporter et les nuances que nous faisons quand nous abordons là cette thématique-là de l'importance des deux langues officielles au Canada et de quelle façon ça peut impacter la vie de la personne quand elle vient s'établir ici si elle n'a pas le niveau adéquat en anglais. Cela étant que si c'est le cas, quand les personnes elles viennent pour différentes raisons et qu'elles n'ont pas le niveau d'anglais requis, il y a toutes sortes de possibilités. Donc, notamment, le ministère Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada donne et puis subventionne des programmes de langue, notamment de mise à niveau d'anglais, pour permettre aux personnes de mettre à niveau leurs compétences linguistiques. Donc, autrement dit, il y a des programmes des cours de langue qui sont disponibles pour les immigrants d'expression française pour qu'ils améliorent leur niveau ici une fois arrivés au Canada. Il y a aussi des occasions non formelles d'échanges linguistiques, de clubs d'anglais, etc., qui sont des espaces qui sont créés par différents organismes pour justement permettre aux personnes immigrantes de pratiquer l'anglais, même d'ailleurs au niveau du pré-départ. L'accueil francophone offre des cours, des clubs d'anglais pour justement permettre aux personnes qui sont encore à leur pays d'origine et qui se préparent à leur arrivée de commencer à pratiquer l'anglais et puis d'essayer d'éliminer un peu les barrières et la gêne que ces personnes elles peuvent avoir.
Nous vous remercions énormément du temps précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui, Salwa.
Ça me fait plaisir, Iman.
Marie-Hélès à Ottawa, en Ontario, vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et pour conclure cette émission, on prend le temps et on prend la mer. Elle n'est pas bleue, turquoise, chaude et transparente, mais froide, gigantesque et impressionnante. C'est la mer de l'estuaire du golfe du Saint-Laurent. Elle est salée. où se tient fièrement notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent, qui travaille à Tête à la baleine, elle qui, pour nous, a affronté vents et marées et hissé son drapeau sur le Bella des Gagnés qui faisait la traversée de Tête à la baleine jusqu'à l'île d'Anticosti, une traversée de 2 jours qui lui a permis d'aller à la rencontre du capitaine de ce navire qui ravitaille la basse côte nord. Le capitaine Corey Deveau qu'elle a rencontré sur ce navire de 6600 tonnes au lendemain d'une nuit mouvementée en mer alors que les passagers et l'équipage étaient en route vers l'île d'Anticosti, le Bella des Gagnés qui relie d'avril à janvier Rimouski sur la côte est du fleuve Saint-Laurent au village de la basse côte nord non desservi par la route, ceci évidemment pour assurer le transport de passagers et de marchandises. Les forts vents de la nuit qui a précédé cette rencontre ont gardé le capitaine du navire éveillé bonne partie de la nuit, le capitaine qui a dû éviter d'ailleurs le port de Natashquan en raison des mauvaises conditions météo, le navire qui a ensuite mis le cap sur Port Meunier à Anticosti. Rencontre donc avec Corey Deveau qui navigue depuis 14 ans, il s'est fait la main sur le Nordic Express, le prédécesseur du Bella des Gagnés dont il tient aujourd'hui des commandes. Le capitaine Deveau parle avec Raphaël Hensley-Vincent.
Je suis avec Corey Deveau qui est le capitaine en ce moment sur le Bella des Gagnés.
C'est ça.
Vous avez accepté de me rencontrer pour une courte entrevue après une nuit quand même assez agitée.
Ouais, cette nuit, c'était une nuit venteuse un peu. J'avais embarqué de Kegeska en route vers Off-Saint-Pierre. J'avais sauté de Natashquan, du fait qu'il ventait à 50 nœuds dans le secteur. Il vente toujours environ 35-40 nœuds ouest-nord-ouest à ce moment-ci, quand nous parlons. Donc, je suis présentement en route pour Anticosti.
J'avais envie de vous entendre un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à être capitaine du bateau? Depuis quand vous êtes à bord du navire, le Bella des Gagnés?
Je viens de la Nouvelle-Écosse, d'un petit village appelé Mavillette, à la Baie-Sainte-Marie. C'est un petit village de pêcheurs. J'ai grandi sur l'eau. Mon père a 2 bateaux à pêche. Il faisait la pêche au mort en hiver. Donc, de novembre jusqu'à juin, tout l'hiver, dans l'Atlantique, je faisais la pêche au Homard. Donc, j'ai grandi avec ça. Mon frère est capitaine de bateau à pêche aussi. Tous mes oncles envoient des bateaux à pêche. Donc, j'ai commencé comme matelot, comme tout le monde d'autre, de la vieille façon, pas de la nouvelle façon. J'ai pas vraiment été à l'école, j'ai commencé comme matelot. Puis, j'ai monté les échelons de matelot à capitaine pendant 10 ans, 10-15 ans que ça m'a pris. Puis, challenger tous mes examens à travers le Transport Can pour devenir capitaine.
Ça fait longtemps que vous naviguez les eaux du Golfe, puis vous connaissez bien la basse-côte que vous me disiez.
Oui, donc ça va faire 14 ans que je suis à la basse-côte. J'ai commencé comme troisième officier sur le Nordic, comme que je disais, sur le Nordic Express. Puis j'ai monté les échelons à premier officier pendant 5 ans, je pense, environ. Et puis après ça, j'ai tombé capitaine sur le Bella, qui fait, ça fait 7 ans que je suis capitaine sur le Bella. Donc, oui, la Basse-Côte, c'est comme mon deuxième chez moi parce que je passe plus de temps ici qu'à la maison. Dans les 14 ans que j'ai passé sur la Basse-Côte, j'ai fait beaucoup de connaissances avec les gens locaux. Donc, je considère ça mon deuxième chez moi.
Tantôt, on a visité la timonerie puis j'ai vu que vous travaillez beaucoup en équipe.
Oui, donc j'ai toujours une équipe avec moi. En fin de compte, j'ai toujours un officier puis un timonier. Encore 24 sur 7 dans la timonerie. Donc, que ce soit en manœuvre, en mer, en route, à quai, 24 sur 7, il y a toujours une équipe dans la timonerie pour faire la navigation. Puis pour tous les approches, tous les départs, si tu as des urgences, la météo défavorable, de la glace, des escortes de glace avec les brise-glaces l'hiver, moi je vais me joindre à cette équipe-là. Moi, personnellement, j'ai pas de corps, donc les officiers de navigation et les matelots, les timoniers, ils ont des corps. Donc c'est 4 heures en watch, 8 heures off, donc 2 corps de 4 heures. Moi, personnellement, ils m'appellent à tous les ports, donc tous les arrivées, tous les départs, c'est moi qui les fais. Puis à part de ça, là aussi, la gestion du navire, donc tout ce qui est gestion ressources humaines, ainsi de suite, qui peut amener un navire avec environ 48 membres d'équipage. Mais cette gestion-là, je la fais avec mes chefs d'équipe aussi.
Vous êtes 4 semaines sur le navire, puis 4 semaines ensuite off, si j'ai bien compris.
Ouais, ben ça dépend de le temps de l'année. Mais à ce moment ici, oui, c'est 4 semaines sur le navire, 4 semaines à la maison. Donc moi, quand ce que je suis en vacances, c'est mon collègue Mathieu qui me remplace. Dans les plus durs temps de l'année, quand ben, j'arrive pas mal là dans l'automne, mais je faisais des 3 et 3 juste pour essayer de couper le récupérer puis couper cette pause un peu plus.
Et c'est quoi le plus grand défi dans votre métier selon vous?
Tous les bateaux ont des différents défis, mais sur la basse côte, il y a toujours un défi. Puis ça fait 14 ans que je suis ici puis que je reste ici. Là. C'est que tous les semaines, c'est jamais la même chose. Les vents qui sont un défi qu'avec les années, spécialement les 3 dernières années, les tempêtes sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus épiques, donc beaucoup plus, ils ventent beaucoup plus fort, puis ils sont beaucoup plus longues. Donc avant, même pas si longtemps que ça, là, t'avais une tempête de 50 nœuds, 60 nœuds, une fois tous les 2-3 semaines, peut-être, puis ça dure à une douzaine d'heures. Maintenant, 50 nœuds, c'est nœuds, on voit ça quasiment toutes les semaines. Puis ça dure longtemps. Par exemple, hier soir, ça a pogné 50 nœuds vers, je pense qu'il était à 6 heures. Puis à ce moment qu'on se parle, il est midi le lendemain, puis il vente encore. Donc, ça fait ma job un peu plus compliqué à maintenir l'horaire, donner le service à les gens de la basse côte tout en temps que passer à travers de ces tempêtes-là. Là. Puis essayer de maintenir cet horaire-là à toutes les semaines et livrer le stock et la marchandise.
Puis à ce propos-là, je sais que les gens en basse côte puis en tête à la baleine se demandent souvent pourquoi on a sauté un port, pourquoi il vient pas. Puis je me demandais, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du processus décisionnel quand vous prenez ce genre de décision-là?
Ben pour moi, c'est la météo. Donc le bateau et c'est la sécurité en premier. Je voulais que personne se fasse mal. Donc la sécurité des gens, des passagers, l'équipage et du bateau en premier. Donc quand c'est la tempête, l'annonce d'une tempête, je m'assieds et je prends une décision de ce qu'on peut poursuivre, aller voir au port. Une fois rendu sur place, ben, dépendamment des conditions météo, là je prendrai ma décision, c'est que c'est sécuritaire à accoster ou pas. Puis là, après ça, ben on décide avec le bureau, là, on décide c'est quoi ce que notre. Si je vais attendre, c'est quoi les conséquences d'attendre, c'est quoi les impacts sur le reste du voyage. Si tu attends 10 heures, si tu attends 12 heures, si tu attends 24 heures, si tu attends 2 heures. C'est sûr qu'attendre 2 heures, ça va. Ça a beaucoup moins d'impact que si tu attends 24 heures. Ça va être un avantage à ne pas arrêter. Peut-être qu'on n'a pas d'avantage, peut-être qu'il va faire tempête partout, puis qu'il faut attendre là, puis c'est tout. Donc, mais c'est vraiment la sécurité en premier. Aujourd'hui, c'est un bon exemple. Nous sommes présentement en route pour Anticosti. Ils vendent 40 nœuds. Mais j'allais les voir quand même, faire notre possible pour évaluer la situation sur place. Une fois rendu sur place, ben, là, la décision va être prise si je peux rentrer ou pas.
Est-ce que vous pouvez me parler de qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Est-ce que vous êtes encore. Est-ce que vous trouvez encore ça beau, voir la mer ou.
Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour, honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as regardé au lever du soleil? Je dis, oh, c'est une bonne question, je ne m'en souviens pas. Ben, oui, moi c'est le challenge que j'aime. Moi, j'aime de travailler dans la glace. Donc, tout le monde a leur spécialité. Moi, j'ai décidé de spécialiser dans naviguer dans la glace, puis j'aime ça, travailler dans la glace, travailler avec des brise-glaces, ainsi de suite. Casser de la glace, quand ça arrive au quai, manœuvrer dans la glace. Donc, je trouve cette partie-là le fun. J'aime ça aussi, le bel en particulier, parce que t'as l'aspect, genre des passagers, genre du cargo, genre un peu de tout. C'est quand même un bateau qui est très occupé, comparé à d'autres bateaux peut-être, que tu vas faire un port tous les deux semaines, tous les deux, trois ports par semaine. Tant qu'ici, je fais 22 manœuvres par semaine. Donc, je fais l'équivalent d'un capitaine normal. Moi, je fais probablement aussi tant de manœuvres dans une semaine que je faisons dans un mois ou deux. Donc, c'est toujours ce challenge-là qui me tient intéressé à faire la basse côte et naviguer, là, en fin de compte.
Merci. Ben, j'avais une dernière question. On s'en va dans la basse saison en ce moment. L'automne est pas mal avancé. Puis, je me demandais, c'est quoi les défis de la navigation, c'est ça, dans la glace?
Pour moi, en fin de compte, peu importe le temps de l'année, c'est pas vraiment une basse saison pour moi, là, ce temps-ci, là, parce que le volume de cargo augmente un peu ce temps-ci de l'année, dû au fait que l'hiver s'en vient, donc les gens de la basse côte commandent un peu plus. C'est Noël qui approche aussi, là, donc là, un peu de ça. Donc pour moi, là, pas vraiment de haute ou basse saison. C'est sûr que les conditions viennent plus difficiles avec l'automne qui est là déjà.
Raphaël Hensley-Vincent, qui a, au bout de deux jours en mer, pu regagner la terre ferme en posant ses pieds sur la magnifique île d'Anticosti, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. Cet autre reportage sur canada-info.ca. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Nos journalistes, Eileen Koulou à Edmonton, Raphaël Hensley-Vincent en mer, à tête à la baleine, Iman Elhaji à Winnipeg, coordonnateur national Stéphane Bénard à Moncton. Point de vue vous est présenté chaque semaine par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à Montréal, à l'animation et à la réalisation. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de nous tenir compagnie. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine. Ciao!
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.